Le fait divers du siècle. En octobre 1984, un petit garçon de 4 ans est retrouvé mort dans la Vologne, une rivière des Vosges en France. C'est le début d'une véritable saga médiatico-judiciaire qui s'étale sur plusieurs décennies, avec son lot de rebondissements. Le père de l'enfant qui tue son cousin, soupçonné de l'assassinat, la mère accusée d'infanticide avant d'être totalement blanchie. Le témoignage clé d'une ado de 15 ans qui se rétracte et se mure ensuite dans le silence. Un silence qui dure depuis 40 ans. Mais entre-temps, la science progresse, en particulier dans le domaine des recherches ADN. L'ADN, reine des preuves, c'est le deuxième épisode d'un podcast sur les 40 ans de l'affaire Grégory. Il est signé Sarah Camporini.
La décision de la cour d'appel de Dijon est une première dans l'histoire judiciaire. La chambre d'accusation a en effet estimé que le progrès scientifique constitue en soi un élément nouveau permettant la réouverture d'une enquête qui était définitivement close, en l'occurrence celle de l'affaire Grégory. En conséquence, la chambre d'accusation ordonne qu'une recherche d'ADN soit effectuée sous le timbre d'une lettre envoyée par un mystérieux corbeau aux parents du petit Grégory en 1983, soit plus de 18 mois avant l'assassinat de l'enfant.
Si nous pouvons en effet identifier le corbeau scripteur du printemps 1983, nous aurons des éléments pour identifier le corbeau assassin de l'automne 1984, mais ces personnages peuvent être différents, ou alors ça peut être le même personnage. Il y aura des difficultés que nous connaissons et nous voulons continuer cette procédure avec beaucoup de calme et beaucoup de sérénité.
Ce 14 juin 2000, maître Thierry Moser, avocat de la famille Villemain, y croit. 16 ans après l'assassinat de Grégory, on peut identifier l'ADN des individus et qui sait, mettre enfin un nom sur le ou les meurtriers du petit garçon.
Dans les années 80, en 1985, un scientifique britannique, Jeffries, a trouvé ce système d'ADN et d'identification par ADN.
Serge Bühlmann est chef du commissariat d'identité judiciaire de la police fribourgeoise.
Dans les années qui ont suivi, ça s'est gentiment commercialisé et puis finalement répandu en Europe, aux États-Unis et dans le monde entier. Et donc à partir de là, il est possible de pouvoir individualiser ou identifier des gens par ADN. Donc. Au début, pour établir un profil génétique, on avait besoin d'une grosse tache de sang. Puis finalement, maintenant, on parle d'une cellule, ou en tout cas quelques cellules. Donc on a vraiment évolué dans la sensibilité de la méthode pour pouvoir travailler.
Le job de Serge Bühlmann, c'est justement d'aller sur des scènes de crime, qu'il s'agisse de cas graves comme des homicides ou moins dramatiques, des cambriolages par exemple, et de récolter avec son équipe un maximum d'éléments. Parmi ces éléments, toute pièce qui pourrait donc comporter des traces génétiques pertinentes. Ces prélèvements sont ensuite envoyés en médecine légale. Les experts de son unité de génétique forensique pourront en tirer des informations précieuses.
Ils vont donc faire l'extraction, ils vont établir le profil génétique. Puis ce profil sera envoyé dans la banque de données nationale qui s'appelle CODIS à Zurich, qui va tout simplement aller voir est-ce qu'il y a des traces correspondantes. Donc finalement, une trace, c'est un élément biologique qui n'est pas attribué à une personne. Donc là, ça peut aussi faire un hit. Ah, d'un coup, oui, j'ai cette trace-là, comme ça arrive sur nos cas de cambriolage. J'ai le cas de cambriolage qui a été fait à Fribourg, qui est en lien avec Bull, mais je ne sais toujours pas qui c'est qui est l'auteur. Par contre, je sais que ces deux cambriolages ont été faits par la même auteur. Et puis, il y a aussi cette banque de données qui contient les personnes, où là, l'ADN qui a été prélevé sur le lieu de cambriolage à Fribourg, ça correspond à Monsieur X. Et puis là, finalement, c'est pas un nom d'identité qui se trouve à Zurich dans une banque de données. On est en Suisse, on aime bien cloisonner les informations, protéger l'information. Par contre, c'est un numéro qu'on appelle un numéro PCN qui va rediriger vers une personne qui se trouve, elle, centralisée à Berne. Et puis, ces banques de données communiquent ensemble. Finalement, on aura cette identité qui va arriver dans notre service pour nous dire « Ah ben voilà, le prélèvement qui a été fait correspond à telle personne. »
Retrouver à qui appartiennent le ou les profils génétiques présents sur des scellés, vieux de plusieurs décennies. Dans l'affaire Grégory, cette démarche suscite de l'espoir à plusieurs reprises. C'est le cas en octobre 2009, quand le procureur de la cour d'appel de Dijon, Jean-Marie Benet, donne devant la presse les résultats d'analyses génétiques réalisées sur plusieurs scellés.
Les profils génétiques de Christine et de Jean-Marie Villemain ont été établis et par conséquent comparés. Et je vous l'indique d'ores et déjà, il n'y a aucune trace de Christine ou de Jean-Marie Villemain sur l'ensemble des supports qui ont été analysés. Sur cette enveloppe, ou plus exactement sur le timbre de cette enveloppe, l'expertise met en évidence un profil ADN féminin sur le timbre qui permet une identification.
Le magistrat précise encore qu'un ADN, masculin cette fois, est lui aussi découvert sur la lettre elle-même. Lettre de revendication que le corbeau a envoyée à Albert Villemain, grand-père de Grégory, 9 mois après la mort de l'enfant. Mais ces analyses ne donneront rien. Les traces identifiées ne correspondent à aucun des 150 protagonistes de l'affaire. En 2013, les parents de Grégory demandent une nouvelle fois de la justice des analyses sur les vêtements de leur petit garçon et sur les cordelettes utilisées pour l'entraver. Elles n'aboutissent pas non plus à des identifications. Tout récemment, au printemps dernier, les Villemain ont obtenu que des expertises, notamment d'ADN, soient une fois encore réalisées. Il s'agit, selon leur avocat, d'échantillons qui n'avaient pas été répertoriés, pas attribués à une identité particulière ou pas croisés avec d'autres éléments de la procédure jusqu'ici. Mais concrètement, aujourd'hui, qu'est-on capable de faire en matière d'analyse ADN ? Serge Bühlmann.
Alors, je ne sais pas à quel niveau en France, mais en Suisse notamment, en travaillant avec le CURM, donc le Centre Hormon Universitaire de Médecine Égale à Lausanne, on travaille déjà avec des profils de mélange, avec plusieurs contributeurs, et on arrive à déterminer que voilà, 3-4 personnes sont à l'origine d'un mélange ADN, et ça c'est finalement le grand changement avec cette trace, on parlait de trace de sang, où ben, voilà, je sais que j'ai un sang qui provient d'une personne, et où c'est évident l'ADN qui se trouve dedans. Là, on a des quantités vraiment infimes de plusieurs donneurs d'ADN et on arrive à aller voir un petit peu qui a donné quoi. Et finalement, l'ADN, c'est des statistiques. Donc, on a maintenant les outils statistiques qui nous permettent de proposer diverses solutions par rapport à des contributeurs multiples et ça se fait régulièrement. Des mélanges à deux ADN, c'est quelque chose de très régulier dans notre travail. On peut prendre l'exemple d'un cambriolage, de porte avec une poignée. On aura rarement un ADN unique sur une poignée de porte. Il peut y avoir principalement peut-être l'auteur qui l'a touché en dernier, mais il y aura les locataires, il y aura peut-être la visite qui est venue passer, la personne qui allait nourrir le chat pendant les vacances. Finalement, il y a plein d'ADN et on retrouve souvent ces mélanges qui sont parfois interprétables. Parfois, il y a un donneur principal qu'on peut identifier et puis on voit qu'il y a d'autres choses qui se passent un petit peu qui sont présentes sur cette trace, mais on ne sait pas forcément. Mais là, vraiment, actuellement, c'est courant d'aller explorer un petit peu ces mélanges.
Alors, l'ADN, reine des preuves ?
Moi, je ne le dirais pas, dans le sens où finalement, c'est une preuve qui est extrêmement intéressante. C'est une preuve qui nous permet d'obtenir des très bons résultats sur la base de très peu de choses, finalement. Mais après, de nouveau, comme j'ai dit, ça ne nous dit pas le nom d'un coupable. C'est une preuve qu'il faut analyser, qu'il faut interpréter. Ça, c'est un petit peu le grand défi, la grosse nouveauté de ces dernières années. C'est finalement de se dire, mais que signifie mon résultat scientifique ? Parce que c'est vrai qu'on va le transmettre ensuite au ministère public pour qu'il puisse l'utiliser dans la procédure, mais nous devons vulgariser ce résultat, l'expliquer, et finalement déterminer quelle est sa pertinence, ce qu'il veut vraiment dire.
Mais disons que dans certains cas, l'ADN peut être déterminante et permettre de résoudre des affaires anciennes.
Je me rappelle un de mes premiers cas, c'est une agression d'une personne âgée dans un logement. Finalement, on avait deux profils d'ADN qui étaient très intéressants sur des traces qui avaient été relevées. Alors pendant 7 ans, ça n'a pas bougé. Et finalement, il y a eu un cas un petit peu similaire où une de ces traces ADN a fait un hit ADN avec une autre trace de ce nouveau cas. Puis on s'est dit 7 ans après, ah ben voilà, ces deux affaires sont liées. Et puis cette personne est passée à donner son ADN, une personne a donné son ADN dans le cadre des mesures cinétiques. Donc c'est là où on prend l'ADN des prévenus avec les empreintes et les photos. Et donc ça fait un match avec cette affaire. Donc plusieurs années après. Est-ce que c'était vraiment un cold case ? Je n'en suis pas convaincu. Mais on voit que finalement, on a toujours cette possibilité d'identification.
Et puis en Suisse, il n'y a pas que les progrès de la science qui peuvent permettre aux enquêtes d'avancer, voire d'aboutir.
Finalement, on ne va pas forcément beaucoup se développer dans les capacités techniques. Par contre, ce qui évolue un petit peu dernièrement, c'est la législation aussi. On a eu une nouvelle loi sur l'ADN qui est rentrée en vigueur l'année passée, avec notamment des changements tels que le phénotypage. Le phénotypage, c'est une opportunité d'enquête qui nous permet, à travers une trace ADN, d'échanger un petit peu des caractéristiques, cette fois-ci codantes, de l'individu à la source de l'ADN. Donc, grosso modo, avec ce système de phénotypage, on peut estimer avec certaines probabilités la couleur de cheveux, la couleur des yeux, les origines ethniques de l'individu et puis des choses comme l'âge par exemple aussi. Donc là c'est un outil d'enquête qui nous permet de savoir l'auteur du viol via un sperme qui est retrouvé sur une victime peut avoir les yeux bruns à 60%, les cheveux blonds à 80%, ainsi de suite. Mais ça reste des probabilités et puis on attend un petit peu d'avoir l'occasion d'exploiter ces dispositions légales qui sont en vigueur actuellement.
Ce sont des éléments supplémentaires, mais encore une fois, il y a tout un travail encore à faire après. Quoi.
Clairement.
Mais dans ce travail, d'autres éléments que l'ADN peuvent avoir aussi une grande importance. Des indices matériels, bien sûr, mais aussi virtuels, avec les traces numériques, qui ont pris, évidemment, une place prépondérante. Vous brûlez d'en savoir plus ? Rendez-vous dans le prochain épisode de ce podcast sur les 40 ans de l'affaire Grégory.